18h30 à Paris, 17h30 en temps universel. On vous retrouve, Romain, pour le débat du jour. Romain, bonjour.
Bonjour, bonsoir, Amélie. On va se pencher sur la génération Z dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, la génération Z, traduisée, née dans les années 90, donc aujourd'hui la trentaine, fortement marquée par son époque, les enjeux écologiques, la pandémie de Covid-19 qui a libéré la quête de sens, la recherche de l'équilibre personnel, tout cela remodèle profondément le rapport au travail. Quel rapport au travail pour la génération Z? Voilà la question que nous posons ce soir. Est-ce qu'elle veut moins travailler que ses aînés, comme certaines études l'attestent? Mais dès lors, qu'est-ce que cela augure? Est-ce qu'il faut s'attendre à un choc des générations? Quelles conséquences économiques et au-delà? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Elisabeth Soulier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue et essayiste, autrice du livre « La génération Z » au rayon X. Face à vous, Émilie Corchia, bonsoir.
Bonsoir.
Fondatrice de My Job Glasses, qui est la première plateforme de rencontres professionnelles en Europe et qui permet à chaque jeune d'avoir la bonne information sur les métiers pour trouver sa voie. Elodie Gentina, bonsoir.
Bonsoir.
En ligne avec nous, vous êtes professeur chercheur en marketing à l'Institut d'économie scientifique et de gestion, autrice du livre Génération Z. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Elisabeth Soulier, vous qui avez écrit la Génération Z au rayon X, comment est-ce qu'on peut définir cette Génération Z? Qui est-elle? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs Générations Z?
Oui, c'est une génération, elle est forcément plurielle. D'ailleurs, elle revendique cette pluralité. Mais ensuite, on peut quand même, elle a quand même, c'est une génération chronologique, elle est née à une certaine période dans un contexte singulier, qui est celui de la révolution digitale. En fait, c'est la première génération qui n'a pas connu un monde sans le numérique. Ah. Donc, c'est ce qui la singularise probablement aux yeux des, par rapport aux générations précédentes. Donc, en effet, ce sont les vingtenaires d'aujourd'hui. Et c'est vrai que leur comportement, leurs attitudes dans le monde du travail en particulier, mais pas seulement, leur manière d'habiter le monde, eh bien, déstabilise un peu les schémas de pensée des générations précédentes, il faut le dire.
Vingtenaires, mais pas seulement, ils peuvent être un peu plus âgés que 20 ans.
Oui, c'est ça, les vingtenaires, c'est-à-dire ils ont aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui ont entre à peu près 16 et 28 ans.
Oui, hein, d'accord.
C'est à peu près ça.
C'est ça.
C'est très limitatif de donner un âge chronologique comme ça, mais c'est utile aussi pour la pensée, et la pensée aussi dans sa pluralité. Mais on a besoin aussi d'avoir penser le général pour pouvoir penser le particulier.
Elodie Gentina, j'entends que vous souhaitez déjà réagir. Alors c'est intéressant, premier enseignement de cette génération Z, la première qui n'a pas connu autre chose qu'Internet, ça c'est intéressant.
Non, complètement. Et c'est important, quand on parle de termes de génération, on peut aussi remettre en cause la notion de génération, parce que, comme l'a dit Elisabeth, tout n'est pas une question d'âge, c'est aussi une question d'époque dans laquelle on vit. Donc ça, c'est important de le rappeler. Moi, plutôt parler de génération, j'aime bien utiliser le terme de digital natif, tous ceux qui sont nés pendant la quatrième révolution numérique et qui n'ont connu que le monde du numérique. Et après, quand j'anime des conférences en entreprise, très souvent, on tend à avoir beaucoup de stéréotypes quand on parle des jeunes aujourd'hui. Ils sont que dans l'ère du digital, ils remettent en cause l'autorité. On tend à avoir beaucoup de préjugés. Et c'est important justement de prendre de la distance, de déconstruire ces préjugés pour véritablement comprendre qui ils sont.
Qui ils sont, Émilie Corchia? Vous les rencontrez souvent, ces jeunes, vous qui êtes fondatrice de My Job Glasses, parce qu'il y a énormément de jeunes qui se rencontrent avec cette plateforme de mise en relation professionnelle.
En effet, beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur leur avenir et qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, la plateforme est là pour les aider et leur permettre de rencontrer des professionnels pour les aider à faire les bons choix. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes, et qui sont-ils? Ils veulent du sens dans leur métier et savoir pourquoi ils sont au travail. Mais j'ai envie de dire, et je rejoins ce que dit Elodie, c'est pas qu'une question de génération, c'est une question, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui. Mmh. Quel que soit votre âge aujourd'hui, vous avez envie d'avoir du sens dans votre travail, et vous avez envie de comprendre pourquoi vous êtes là et ce que vous faites. Et vous serez beaucoup plus motivé si vous comprenez finalement quelles sont vos missions et à quoi vous contribuez que si vous ne le faites pas. Donc cette génération, on dit souvent qu'elle est plus difficile, etc., etc., parce que peut-être qu'elle le dit plus fort que les autres.
Mais elle est davantage sociétale que générationnelle, la quête de sens, c'est que vous
dites. C'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, aujourd'hui, je crois qu'on est tous en recherche de sens. Simplement, peut-être que les générations plus anciennes le disent moins ou osent moins le dire haut et fort. Et puis, historiquement, quand ils étaient jeunes, claquaient moins la porte si ça ne leur allait pas. Cette nouvelle génération qui a tendance à être slasheuse, comme on dit, et à partir s'ils ne voient pas l'intérêt de leur boulot, finalement, ils reflètent un peu la société d'aujourd'hui, sauf qu'ils le disent un peu plus fort. Mmh. Mais finalement, et je retourne la question, on a tous envie d'avoir du sens dans notre métier, on a tous envie de savoir pourquoi on est là et ce qu'on fait.
Évidemment. Elisabeth Soulier, vous voulez
réagir. J'ai envie de rebondir un peu sur cette notion de sens, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la quête de sens de la génération Z, et je suis d'accord que c'est transgénérationnel de parler de la quête de sens. En fait, je pense qu'il y a une nuance qui est quand même à faire avec la génération Z, c'est que la notion même de quête, pour moi, n'est pas tout à fait dans le vocabulaire de la génération Z, parce qu'il faudrait à ce moment-là être dans un temps long sur lequel on pourrait se projeter, et un graal qu'il faudra atteindre, et se dire, ben voilà, c'est le sens que je veux atteindre. Cette génération, elle n'est pas dans le temps long, puisqu'elle vit l'instant présent de ses expériences, dans cette manière d'habiter le monde dans l'instant présent, dans l'immédiateté. Hein, elle baigne dans l'immédiateté de la culture digitale. Donc, cette notion de quête, peut-être, n'est pas tout à fait... elle est à nuancer avec la génération Z.
D'accord. Okay.
La notion même de sens, elle est pour moi aussi à...
Elle vit la quête de sens, on pourrait dire.
Elle me dit que le sens se vit tout le temps, à chaque instant. Qu'est-ce que c'est que pour elle le sens ? C'est en fait, c'est faire une expérience d'essence. C'est-à-dire, c'est son sentiment de bien-être, d'épanouissement personnel, ses sensations, ses sentiments, ses émotions. En fait, c'est ça. C'est comment les expériences de ses sens, comment elle se sent bien dans sa relation à elle-même, aux autres et au monde, qui va lui permettre de créer du sens, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y a une espèce de nouvelle définition, peut-être, à donner aussi à la notion de sens pour la génération Z, qui est quand même un peu singulier.
Je suis assez d'accord avec ce
Émilie Corchia.
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, et c'est pour ça que moi, le conseil que je donne aux entreprises, que c'est la question, la génération Z et le travail, c'est d'être énormément dans la transparence et d'expliciter pour éviter des attentes qui seraient trop éloignées de la réalité de ce qu'ils vont avoir. La quête de sens, elle passe par là aussi. C'est-à-dire, ce que la génération Z peut reprocher très facilement et qui explique le côté slasher, c'est que ça ne correspond pas à ce qu'on lui avait dit, ou à ses attentes, ou ce qu'elle avait compris, ou ce qu'elle voulait. Et donc, du coup, pour justement garder, fidéliser cette génération, faire en sorte qu'elle soit épanouie dans son travail, il y a cet enjeu d'expliquer et de vraiment préciser les attentes pour pas qu'il y ait de différence entre ce qu'on a promis, d'une certaine manière, et ce qu'ils vont découvrir quand ils vont arriver sur le marché du travail. Et c'est là que nous aussi, on joue un rôle, grâce à ces professionnels qui sont là pour expliquer ce qu'ils font et pour mettre en avant ces éléments-là, c'est que ça va les rassurer et ça va leur donner de l'information. Ils vont pouvoir faire des choix éclairés. Et donc, si le choix qu'ils ont fait, ils le retrouvent dans leur quotidien, là, ça ira. S'il y a un décalage, c'est là qu'on va avoir un problème.
Et ils sont devenus slasheurs, comme vous dites, c'est-à-dire qu'ils quittent plus facilement leur travail que d'autres, cette génération Z, parce qu'ils ont pu être désabusés entre ce qu'ils imaginaient être le travail et la réalité.
Alors nous, c'est ce qu'on voit dans les études qu'on a faites. Et notamment, on a créé un observatoire national du premier emploi qui nous montre en fait que ils n'ont pas de problème à quitter leur emploi si ça ne correspond pas à leurs besoins. Mais je pense que ce n'est pas tellement par rapport à leur expérience à eux. J'ai envie de dire que c'est plus par l'expérience de leurs parents. Et notamment ce qu'ils ont vu autour du chômage. Et qui faisait que, en fait, le côté « je donne tout à une entreprise pour avoir quelque chose plus tard » est mal vu parce qu'ils savent que le plus tard, peut-être, se terminera par une rupture de contrat ou un problème. Donc, ils ont des attentes qui sont immédiates. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Et je pense que c'est important aussi que les entreprises leur tendent la main et leur expliquent les choses et soient dans la transparence.
Élodie Gentina, est-ce que vous diriez, vous qui êtes professeur-chercheur, sur ces questions-là, notamment, que la génération Z, bah, elle est le produit de la génération des parents, enfin, ce que vous nous dites, Émilie Corchia. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on en est là aujourd'hui avec cette exigence, on va la détailler hein, dans le rapport au travail, bah, parce que elle a vu ses parents, cette génération Z, peut-être avoir des difficultés au travail, souffrir au travail.
Bien sûr. Alors en fait, hein, vraiment, les jeunes aujourd'hui le disent bien. Ils voient bien que l'entreprise ne peut plus promettre ce qu'elle a promis à ses parents, c'est-à-dire un job à vie, un salaire à vie, un statut à vie, le même métier pour toute une vie. Et ils sont en train de remettre même en cause la notion de métier. On l'a dit tout à l'heure, Elisabeth l'a souligné, c'est-à-dire que le rapport au temps est complètement différent. Avant, on parlait de carrière, de plan de carrière, de métier pour toute une vie. Et ces jeunes remettent en cause cette notion de métier pour plutôt privilégier même des postes à mission. Mmh. Et donc, ils ont vu leurs parents travailler toute une vie et s'investir dans la même entreprise, revenir le soir avec un regard un peu dramatique sur le monde du travail ou se faire jeter du jour au lendemain. Et ils se disent, mais moi, est-ce que l'entreprise peut me promettre ça ? Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des entreprises qui mettent même fin à des contrats d'exclusivité. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des jeunes qui sont dans la polyactivité, qui ne veulent pas un job, mais plusieurs jobs. Et donc, on est face à des grandes mutations dans le domaine du travail. Pareil, quand on parlait flexibilité. Les jeunes veulent de la transparence, ils veulent de la quête de sens, mais ça, c'est intergénérationnel. Hein. Ce n'est pas que propre à cette génération-là. Ils veulent de la flexibilité, non pas sur le lieu de travail, mais plus sur les horaires de travail. Ils sont heureux d'aller dans l'entreprise, mais voilà, ils ont envie d'avoir plus de la flexibilité au niveau des horaires. Mmh. Donc, il y a énormément de changements et ils n'ont pas forcément d'avoir envie de refaire le même job ouais. par rapport à leurs parents. Ils voient bien que la notion d'engagement est en train de changer.
Mais Isabelle Soulier, vous qui êtes anthropologue, pourquoi ce changement, il intervient avec cette génération-là? Pourquoi pas avec la précédente? Par exemple, la Y, c'était entre 80 et 2000. Pareil, je veux dire, les aînés se tuaient tout autant à la tâche, au travail.
Oui, avec cette génération et donc la révolution numérique, on a quand même une rupture anthropologique, c'est-à-dire la manière de penser le monde, de se penser dans le monde. Et donc cette rupture, en fait, je pense qu'il faut la... C'est pas un fossé générationnel, c'est une rupture ouais. de la manière d'être au monde, c'est-à-dire de penser le temps, de penser la hiérarchie, l'autorité, ouais. de penser sa relation à la connaissance, au savoir. On a une obsolescence extrêmement rapide des savoirs, des diplômes, des connaissances et des métiers. Donc aujourd'hui, on sait que la majorité des métiers de 2050 n'existent pas encore. Donc cette génération, de toute façon, elle sait que pour vivre, il va falloir qu'elle s'adapte en permanence à du changement. On est vraiment, pour reprendre un terme de Edgar Morin, on n'est pas dans une ère de changement, mais dans un changement d'ère. Donc je pense que c'est prendre en compte aussi quand même cette bascule, cette mutation considérable qui est accélérée par la mutation technologique, qui est générée par la mutation technologique et qui fait que cette génération ne vit pas de la même manière que les générations précédentes.
Ouais.
Après, par rapport en effet, de se dire que le mal-être au travail, c'est une génération qui n'est plus dans la notion de raison, R-A-I-S-O-N, hein, elle me dit que la raison a eu raison des sens, les fameux sens de cette génération Z, et elle vit dans les émotions. Et elle cherche, si vous voulez, à s'épanouir, pas du tout à se réaliser, à réaliser un projet pour elle et pour le monde, il faudrait un temps long pour ça, mais elle veut s'épanouir, c'est-à-dire l'épanouissement, il passe donc par l'essence et il passe aussi par la relation, la qualité relationnelle. C'est une génération qui fait le pari de la relation. Elle cherche d'ailleurs d'entrer dans des entreprises, que moi j'appelle les entreprises tribales, c'est comment aujourd'hui une entreprise peut générer du collectif, donner à cette génération Z, les conditions de son épanouissement, la notion d'épanouissement, donc émotionnel, ça a une dynamique beaucoup plus collective que personnelle. Elle me dit très souvent, mes informateurs terrain me disent, mais m'épanouir seul, ça n'a pas de sens. Mmh. J'ai besoin des autres pour pouvoir m'épanouir.
Alors, on en vient à la question frontale, Émilie Corchia. Qu'est-ce que ça révèle tout ça? Est-ce que ça révèle une génération qui est moins prête à travailler, qui a une valeur travail qui sera en recul, qui
moi,
est moins intéressée par un investissement dans les entreprises, dans une profession?
Moi, je ne crois pas.
Qu'est-ce que
moi,
vous apprend My Job
Decision permet de s'émanciper, et c'est la même chose pour cette génération que pour les précédentes. Je pense simplement que leur rapport au travail est différent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie de travailler si ça leur apporte quelque chose à eux aussi, et si finalement, ils sont partie prenante de l'équation. Ils n'acceptent pas de subir.
Donc, est-ce que ça peut révéler une crise de l'individualisme?
Sans doute. D'une certaine manière, mais je pense que c'est pas... Alors, je suis d'accord, mais je pense que c'est plus large. En fait, ouais. ils ne seraient pas contents qu'un de leurs collègues subisse quelque chose qui n'irait pas. Donc, c'est de l'individualisme, mais qui est aussi partagé. Et ils sont intéressés, ils ont des valeurs, ils veulent que l'entreprise ait les mêmes valeurs qu'eux, ils veulent partager ces éléments-là. Et donc, du coup, c'est pas simplement moi et je regarde pas ce qui se passe à côté, c'est moi et les autres aussi dans le cadre de mon écosystème. Mmh. Et ça, je pense que c'est un point important.
Elisabeth Soulier, une génération plus individualiste. J'ai vu que vous disiez oui.
Non, mais surtout pas.
Non, mais non. Ce que je veux dire, c'est à quel point est-ce que c'est pas conciliable avec une préoccupation des enjeux écologiques, qui est une question davantage collective.
Oui, mais avec cette génération, on a une sortie de l'individu pour aller vers la notion de personne. C'est très, très différent. C'est-à-dire que la notion d'individu, me disent ces jeunes, c'est un individu, c'est un on impersonnel. C'est ce qu'elle a vu, justement, ce qu'ont vécu ses parents et ses frères et sœurs aînés, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écart avec la génération Y, mais qui ont été des pions sur l'échiquier de la stratégie de l'entreprise ou un Kleenex que l'on utilise, une ressource dans laquelle on puise, et quand on n'a plus rien à donner, eh bien, on les jette. Les taux de burn-out de la génération Y, qui sont ses frères et sœurs aînés, sont quand même assez considérables. Donc, en fait, cette génération, elle ne veut pas perdre sa vie à la gagner, elle veut s'épanouir, le travail est extrêmement important, mais n'est plus central. C'est-à-dire qu'il y a le travail et aussi autre chose, et d'autres choses, ou en tout cas, elle veut vivre le travail différemment. C'est-à-dire qu'elle veut que le travail... C'est pas simplement que le travail va développer ses compétences. Elle veut que dans le monde de l'entreprise, on crée les conditions de son développement personnel, c'est-à-dire qu'on la fasse grandir personnellement. Mmh. Donc, il y a une porosité des frontières entre le monde de façon professionnelle et le monde personnel, et elle cherche une harmonisation de ses temps de vie.
Et Élodie Gentina, alors en écho à ce que nous dit Elisabeth Soulier, je vais citer cette enquête du cabinet de conseil Deloitte qui a été publiée l'automne dernier. Le travail reste pour les jeunes un pilier essentiel en termes d'identité, mais seulement après les amis et la famille. Et Elisabeth Soulier, vous nous dites que c'est très important pour, et Émilie Corchet vous dit aussi, pour cette génération jeune de s'épanouir professionnellement, mais à condition d'y trouver sa place et d'y trouver un intérêt. Ça vous inspire quoi, Élodie Gentina ?
C'est-à-dire qu'en fait, comme elles l'ont dit, c'est pas la fin du travail, on est sur un autre rapport au travail qui est moins rationnel, qui est beaucoup plus affectif. Ça, c'est important de le rappeler. Et en fait, ce qui est important également de rappeler, c'est qu'il y a un autre rapport à l'engagement dans le travail. Avant, il y avait un engagement qui était une sorte de contrat de loyauté avec le travail où on restait, on acceptait les contraintes. Et il y avait un engagement qui était rationnel, qui était affectif et qui était normatif. Travailler était la norme. Travailler, c'était, ça nous procurait une certaine sécurité. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes ne recherchent plus la sécurité de l'emploi, mais ils vont plutôt rechercher un engagement collectif, social, tribal. Ils ne sont plus fidèles à l'entreprise, mais ils sont fidèles à leurs collaborateurs qui deviennent fidèles à l'entreprise. C'est pour ça que parfois, on voit qu'il y a un jeune qui part, il y a deux, trois, quatre jeunes qui partent. Parce que voilà, on va avoir cet effet collectif. Donc aujourd'hui, on est face à un engagement, et ça, c'est hyper important pour comprendre le rapport au travail. Et je l'ai bien mis en avant, justement, dans l'avant-dernier bouquin. J'ai écrit 5 bouquins sur cette thématique-là, mais dans l'avant-dernier, sur l'engagement, quand j'en parlais, je parle d'un engagement collaboratif et social. Donc les jeunes sont avant tout engagés collectivement. Je parle d'un engagement intrapreneurial. Les jeunes ont envie d'apprendre dans l'entreprise. Un critère voilà, phénoménal, vraiment hyper important qui est sur la fidélisation, c'est apprendre tous les jours, voilà, renouveler ses compétences. On parle d'une fidélité éthique, voilà, en adéquation. Je veux intégrer une entreprise en adéquation avec mes valeurs. Donc l'importance de l'authenticité, comme vous l'avez dit. Et puis également une fidélité affectif, émotionnel. Le travail n'est plus uniquement un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Mmh. Donc, quand on parlait de QVT, ok, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de répondre, justement, l'entreprise doit répondre à toutes ces problématiques de santé mentale et de santé mentale, de morale des jeunes.
On a compris la perception de l'entreprise par les jeunes de la génération Z. Élodie Gentina, est-ce que vous diriez que ça touche les Français, les Européens, le monde ? Parce que, par exemple, je ne sais pas, je vais penser à par exemple, en Asie, où on a l'image de cadence infernale, j'ai un chiffre, 18% seulement dans l'Est de l'Asie, des moins de 35 ans, qui disent impliqués dans leur entreprise.
Alors, il y a des différences, bien évidemment, quand on parle de la génération. Et donc là, j'ai aussi écrit un bouquin en 2022 sur la génération Z en Asie. On compare même à l'intérieur de l'Asie les différents pays. On voit qu'il y a des différences, hein, même selon les différents pays. Mais il y a bien sûr des différences. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas socialisé de la même manière d'un pays à l'autre. Donc, il y a une importance de l'effet de la culture sur la manière avec laquelle on est socialisé, on est éduqué. Et donc, ça a des répercussions dans le domaine du travail. Si on prend, par exemple, le rapport à l'autorité, est-ce que le rapport à l'autorité est-il le même dans les sociétés individualistes, comme en Europe, comme aux États-Unis, comme dans les sociétés collectivistes, comme par exemple en Asie ? La réponse est non. On voit bien que, par exemple, dans les sociétés collectivistes, on tend à respecter la hiérarchie, on tend à respecter les anciens. Donc, il y a une vraie transmission des anciens vers les plus jeunes. En revanche, dans les sociétés individualiste, les jeunes tendent à remettre en cause l'autorité et il y a un autre rapport à l'autorité où on passe d'une autorité de fait à une autorité beaucoup plus relationnelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de managers qui me disent je me rends bien compte que je dois changer ma posture de manager face à ces jeunes qui remettent en cause l'autorité des anciens, voilà, pour une autorité qui est plutôt relationnelle, un manager qui doit se transformer en un manager coach et non plus un chef uniquement, voilà un exemple de différence.
D'un mot, Émilie Corchet, avant de passer à la seconde partie de ce débat, comment les employeurs réagissent à ce changement d'air, pour reprendre le mot d'Elisabeth Soulier ? C'est parce que ce n'est pas simple pour eux de s'adapter à cette nouvelle manière de percevoir le travail par les plus jeunes aujourd'hui. 86% des chefs d'entreprise estiment que la génération Z est vraiment différente de la génération d'avant. Ça, c'est une enquête Ipsos.
C'est très vrai et il y a un vrai enjeu de formation des managers. Parce qu'on ne peut pas manager la génération Z comme on manageait les générations précédentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle génération, elle veut, comme ça a été dit, apprendre, se développer, être dans une entreprise qui lui ressemble, dont elle partage les valeurs, etc. Et donc, du coup, l'aspect salaire n'est pas suffisant. Je ne viens pas dans une entreprise juste pour avoir mon salaire à la fin du mois. Donc, du coup, la manière de manager doit se ressentir là-dedans aussi.
Et
donc,
mais à quel point les managers sont capables de s'adapter à ça? À quel point ils souhaitent s'accompagner à ça? À quel point est-ce qu'on risque pas de se confronter on va peut-être en parler dans la seconde partie du débat, mais un choc générationnel?
Alors, le choc générationnel, je pense qu'il a été là. Et c'est pour ça qu'on a entendu tellement de choses autour de cette nouvelle génération qui serait incontrôlable, sur laquelle il y aurait plein de problèmes, etc. Donc, information. De comprendre comment on manage, quelles sont les motivations de cette génération pour pouvoir les manager comme il le faut. Et trois, moi j'invite les entreprises aussi à repenser justement le projet. C'est une occasion pour les entreprises aussi de se poser la question, on parle des entreprises à mission, de la raison d'être, de tout ça finalement, c'est des éléments qui parlent à cette nouvelle génération.
Quel rapport au travail pour la génération Z ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Mes trois invités, Émilie Corchia, cofondatrice de My Job Glasses, première plateforme de rencontres professionnelles en Europe. Elisabeth Soulier, anthropologue et essayiste, autrice du livre La génération Z au rayon X. Et Élodie Gentina, professeure chercheure en marketing à l'Institut d'économie scientifique et de gestion, autrice du livre Génération Z. Alors, c'est intéressant, encore une fois, ce mot changement d'air, parce qu'on parle du rapport au travail, mais le changement est beaucoup plus profond. Je vais citer, par exemple, un témoignage, Élise, repris dans le journal Le Monde, qui refuse de monter en responsabilité. On va voir si cette évolution aussi, elle va avec un manque d'ambition. Et elle dit... elle ne veut pas que ça empiète sur son temps libre. On part peu en week-end, on a renoncé à devenir propriétaire, mais cela nous va très bien. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui pour la génération Z, Élisabeth Soulier, c'est davantage vivre sa vie que faire sa vie?
Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est une génération qui veut vivre, en effet, qui veut faire l'expérience de la vie au quotidien. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle ces récits de la quotidienneté, où elle veut vivre à intensité variable les différents instants présents qui se succèdent et qui donnent du sens, de toute façon, à son existence. Donc, par rapport même, je dis toujours que cette génération Z, elle n'est pas « deviens qui tu es, mais sois celui que tu deviens hein ». C'est une génération qui est dans un système processuel, une sorte de processivité, où elle se construit, ou se définit et se redéfinit infiniment chemin faisant, à fur et à mesure qu'elle fait qu'elle fait ses expériences. Si on prenait une métaphore... du voyage, par exemple, elle n'a pas de but à son voyage, mais elle vit le voyage. Et elle me dit très souvent, mais je n'ai pas de but dans la vie. Avoir un but, c'est m'enfermer dans quelque chose qui serait univoque. Mais par contre, je vis ce que la vie m'apporte. C'est-à-dire, d'ailleurs, je laisse la vie faire en moi. Et c'est très surprenant parce qu'on a l'impression que, de ce fait, elle n'est pas actrice de sa vie. Mais en fait, elle l'est, sauf qu'elle n'a pas, elle n'anticipe pas sur un temps long ce qui pourrait être un objectif lointain sur lequel elle pourrait mobiliser un certain nombre de choses. Elle va aller faire des choix de dernière minute. Elle me dit, je laisse tout ouvert parce que tant que je laisse ouvert, eh ben, ça me permet de faire ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire faire des choix d'opportunité. La vie, quand elle est en train de passer, en fait, hein, c'est vraiment ça. Donc, c'est une autre attitude face à la vie qui est absolument surprenante, qui est assez intéressante justement à étudier. Parce qu'elle peut être déstabilisante, parce que cette notion de responsabilité, d'autonomie, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de ces termes-là alors qu'elle est plutôt dans la co-responsabilité, l'hétéronomie, y a en fait tout un vocabulaire qui est à redéfinir aujourd'hui pour parler avec cette génération Z, pour essayer de comprendre le monde tel qu'il vient, en fait. C'est en ça qu'elle est une opportunité, je suis d'accord avec Émilie, c'est une formidable opportunité pour les entreprises, mais pas seulement, hein, pour les générations précédentes aussi, de se dire tout ce qui allait jusqu'à présent, qui allait de soi, aujourd'hui, ne va plus de soi chez cette génération Z. Elle questionne systématiquement l'existant pour essayer de lui trouver des réponses peut-être nouvelles par rapport à un monde, en effet, qui est nouveau.
Émilie Corchia, quelles conséquences, vous qu'encore une fois êtes fondatrice de My Job Glasses dans le monde de l'entreprise, donc je vous ai demandé du côté des employeurs, mais au-delà de ça, si les jeunes aspirent moins parce qu'ils n'ont pas des proches et professionnels, donc aspirent moins à monter dans la hiérarchie. Alors ça, c'est encore une fois, je vais citer cette étude d'un cabinet de recrutement. 52% des jeunes actifs de moins de 30 ans n'aspirent pas à un rôle de manager. C'était le témoignage que j'ai donné. Ça nous va très bien.
Oui.
C'est des témoignages que vous entendez.
C'est des témoignages qu'on entend totalement. Mais en fait, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est OK de pas vouloir avoir un rôle de manager. Avant, c'était vu comme une étape, comme le Graal, finalement. Plus je prenais de responsabilités, mieux j'étais rémunérée, plus j'étais fière d'avoir un champ d'action, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Je peux être plus épanouie en ayant moins de responsabilités et parce que j'ai d'autres choses à côté qui sont importantes pour moi. Il y a un deuxième sujet aussi. C'est qu'on voit trop de managers qui n'ont pas de vie, qui sont en burn-out, qui n'ont pas... Et donc, du coup, vous allez aussi avoir des jeunes qui veulent des responsabilités, mais pas à n'importe quel prix. En demandant en face de ces responsabilités qu'on leur donne les moyens de réaliser ce rôle et qui vont dire « Ok, moi, je suis peut-être intéressée, mais qu'est-ce que tu me donnes face à ça ?» Et donc, du coup, c'est simplement une question aussi de comprendre comment ces responsabilités vont venir. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que les jeunes ne veulent pas de responsabilités. Certains en veulent et certains les cherchent, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on reste exactement dans ce qu'on disait
bien sûr,
avant
bien sûr.
Et en lien vraiment avec, avec l'ensemble de ces éléments-là.
Oui, Élodie Gentina, ça veut dire quoi de l'entreprise de demain ? Ça veut dire quoi de la société de demain ? Si les managers de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui, en tout cas pas selon le même modèle, économiquement, si les jeunes sont plus prêts à ce phénomène de slasher, de quitter les entreprises, économiquement, ça peut avoir des conséquences, socialement aussi ?
Bien sûr, mais après, il n'y a pas de stress à avoir. Hein. C'est juste qu'on voit bien, les mentalités sont en train de changer, la société est en train de changer. Et c'est pourquoi, en fait, justement, les entreprises viennent nous chercher en disant « Mais on a des incompréhensions, on a du mal à les comprendre. On aimerait avoir véritablement un vrai éclairage sur cette génération-là. » Et quand on voit, par exemple, que des jeunes n'ont plus forcément envie de prendre des responsabilités, si on reprend la dernière étude de Robert Walters en septembre 2024, qui montre que 52% sont des jeunes qui ne souhaitent pas assumer des fonctions managériales. Voilà. C'est pas qu'en fait, ils ne souhaitent pas. Derrière, en fait, il faut aller un peu plus loin que les chiffres. Parce que si on peut prendre plein d'études, on trouve même des études qui montrent des chiffres complètement contradictoires. C'est qu'en fait, il y a un autre rapport à l'autorité, il y a un autre rapport au management. Et donc, en fait, ils sont prêts à prendre des fonctions de manager, mais ils le feraient différemment, c'est-à-dire avec plus de flexibilité au niveau des horaires, c'est-à-dire en considérant que le travail est important, mais que l'équilibre de vie est également important.
Mais c'est ce qu'il disait Émilie Corchia, mais Élodie Gentina, je me permets parce que le temps tourne, ça augure quoi, encore une fois, de nos sociétés de demain ?
Notre société de demain, en fait, c'est important de comprendre que tout démarre de la société pour ensuite arriver dans le monde du travail. La société de demain, on n'est pas sur une révolution, mais on est sur une continuité. Et donc, il y a des changements sur lesquels il faut s'adapter. On parle de transition énergétique, on parle de quatrième révolution numérique. On voit que c'est une génération qui a de plus en plus peur par rapport à l'avenir et donc qui veut vivre l'instant présent, ce pourquoi le rapport à l'avenir est différent. Donc, la société de demain, il y a plein de changements, il y a des grandes mutations qui sont en train de changer. Et le point de départ, ce n'est pas la génération, c'est tous les changements qu'on est en train de vivre. Et donc, la société de demain, moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que pour moi, la société de demain, on doit aller sur, non pas uniquement la génération Z, mais sur l'intergénérationnel. Comment travailler ensemble, comment faire du lien, comment apprendre des uns des autres, non pas uniquement sur une transmission qui est descendante des plus anciens vers les plus jeunes, mais on se rend compte aujourd'hui, et certaines entreprises ne se rendent pas assez compte, que les jeunes peuvent aussi apprendre aux plus anciens. Mmh. Ils ont des compétences qui sont plus importantes dans le domaine du digital, dans le domaine de tout ce qui est autour de la RSE, transition énergétique, économie, écologique, diversité, inclusion, dans le domaine des langues. Et donc, quand on s'écoute les uns et les autres et qu'on apprend ensemble en termes de management intergénérationnel, c'est ça le vrai défi demain des entreprises, de travailler sur la question de l'intergénérationnel. C'est une affaire de société et c'est une affaire aussi de l'entreprise.
Eh ben, espérons que votre message soit entendu. En tout cas, on a bien compris que c'était un nouveau rapport au travail, clairement un changement d'air pour cette génération Z. Merci beaucoup à vous trois, Elisabeth Soulier, Émilie Corchia et Élodie Gentina. Merci à Florence Ponce qui était à la préparation de ce débat et Hélène Avril à sa réalisation. Dans 30 minutes après le grand journal du soir, puis RFI Soir, ce sera la première édition d'Afrique Soir. On se penche déjà sur le programme, évidemment. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Alors, de quoi parlons-nous ce
soir ? Les États-Unis qui imposent des sanctions financières contre James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et contre Laurence Kanyuka, qui est porte-parole de l'AFC M23, dont le rôle est mentionné dans l'offensive dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Washington. Dans l'actualité également, l'eau.
L'opposant guinéen Abdoul Sakho, figure de la société civile qui avait été enlevé hier chez lui de manière très musclée par des hommes encagoulés, a été retrouvé dans un état critique et abandonné par ses ravisseurs. On entendra ses avocats. Le Sénégal, lui, va procéder à des fouilles archéologiques pour savoir combien de tirailleurs africains ont été tués par les forces coloniales françaises à Tiaroy, près de Dakar, le 1er décembre 1944. Et pour les historiens, bien sûr, c'est un sacré pas en avant.
Eh bien, merci Sylvie Béré. On vous retrouve dans 30 minutes sur RF.